une semaine d'actualité.
Bonjour chers auditeurs des RFI, les chercheurs sont formels. Notre espérance de vie s'allonge. 71 ans et 6 mois, la moyenne désormais dans le monde. Évidemment, cela varie selon où vous vivez.
Daniel Grillon.
Il est pianiste de passion. Il a même dirigé le temps d'un concert l'Orchestre Symphonique de Jérusalem, puis celui de Shanghai. Mais si on l'écoute beaucoup, jusqu'au président de la République, c'est pour son vrai métier, économiste. Jacques Attali nous accompagne dans ce voyage à travers l'actualité. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Vos analyses seront utiles. Quelques photos marquantes de la semaine. Les patrons français demandent une réforme du Code du travail pour se séparer moins difficilement d'un salarié, permettant, disent-ils, d'en embaucher plus facilement. Les migrants ne meurent plus seulement dans les eaux de la Méditerranée, 70 asphyxiés dans un même camion, en Autriche. Deux soldats américains, héroïques dans un train, regagnent leur pays avec la Légion d'honneur française. D'autres iront en Géorgie. L'OTAN y ouvre une base d'entraînement. Moscou, mécontent. En Côte d'Ivoire, 33 personnes, dont 3 femmes, veulent concourir à l'élection présidentielle. Au Nigeria, notre envoyé spécial, aux côtés du chef d'état-major des armées pendant une embuscade de Boko Haram. Bienvenue en cette semaine d'actualité.
Sept jours dans le monde.
Partons d'abord au Canada, où la fracturation hydraulique fait son entrée dans la campagne électorale. Élection législative là-bas, mi-octobre. Cette semaine, une commission officielle révèle ceci, après un an d'enquête minutieuse. En août l'an dernier, une compagnie gazière fait de la fracturation hydraulique à l'ouest du pays. Se déclenche alors, mais dans le nord-est canadien, en Colombie-Britannique, un tremblement de terre. Magnitude 4,4. Les experts sont formels sur le lien de cause à effet. Les liquides injectés massivement dans le sol ont bien déclenché, beaucoup plus loin, le séisme. L'un des plus importants causés par cette technique, remarque pour Simon Rosé, le géophysicien François-Henri Cornet.
La production de gaz de schiste, on produit du gaz, mais on produit aussi beaucoup d'eau qu'il faut réinjecter dans le terrain. Et ces réinjections-là, c'est celle-là qui crée le problème, parce qu'on les injecte et monte en pression et ça fait des glissements. Et puis ils accumulent quelque part dans le terrain des contraintes et de temps en temps ça pète. Et ça fait des sismes que les gens ressentent. Mais comme c'est pas encore bien compris, eh bien on fait n'importe quoi, on injecte trop vite, de trop gros volume et ça fait des sismes.
Le Canada. Aux États-Unis, l'extraction de gaz de schiste par fracturation fait mieux depuis longtemps. 20 fois plus de séismes, jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter, déclenchés par l'homme là-bas depuis 30 ans. Deuxième bruit de fracturation de la semaine. Dans le portefeuille des petits actionnaires chinois, pour cause de déprime de la bourse de Shanghai.
C'est un désastre. J'espère que le gouvernement nous sortira d'affaires. C'est lui qui a créé cette bulle. Les gens ont investi dans la bourse sur le conseil du quotidien du peuple. Le marché s'est d'abord envolé, puis a brusquement chuté. Le gouvernement ne peut quand même pas nous laisser maintenant seuls.
Nous espérons que le gouvernement sauvera le marché, mais va-t-il le faire? Je viens tous les jours puisque mon argent est bloqué ici, mais si je ne fais plus confiance au marché, qu'est-ce que je peux faire?
Petits actionnaires chinois rencontrés à Pékin par notre correspondante Heike Schmidt. Jacques Attali, la Chine est-elle si fragile? Certains disent notamment que le bilan des grandes banques est assez obscur.
Oui, dans le reportage qu'on vient d'entendre, est tout à fait excellent, je retiendrai juste une incidente dans la phrase d'un boursicoteur chinois sur les conseils du quotidien du peuple. Ça veut dire que, en réalité, ce n'est pas le marché qu'ils ont suivi, c'est les conseils du politique, et qu'il y a un lien extraordinairement étroit et tout à fait explosif entre la confiance faite au marché et la confiance faite aux politiques. La situation chinoise est en effet, chacun le sait depuis longtemps, totalement explosive. Elle tient sur une croissance très forte qui permet d'avaler les chômeurs. On sait que s'il y a moins de 7% de croissance, il y a plus de chômage, et en particulier de chômage dans les migrants ruraux, qui sont de plus en plus nombreux en raison de l'attraction des villes, et la croissance réelle chinoise est sans doute très inférieure à 7%, donc il y a un vrai problème. Et il a fallu aussi en même temps créer de façon tout à fait artificielle des bulles financières pour donner de la valeur à l'épargne, sachant que l'épargne des Chinois, qui représente pour la classe moyenne plus de la moitié de leurs revenus, sert à financer l'école, la santé et les retraites, puisqu'il n'y a pas de système institutionnel solide. Donc, quand les bulles s'effondrent, et c'est déjà le cas de la bulle boursière et un peu de la bulle immobilière, c'est l'ensemble du financement de la vie et de la protection sociale de la classe moyenne qui s'effondre et qui menace la classe moyenne, menace la stabilité politique. Donc, ce qui me paraît devant nous, c'est une crise politique en Chine, parce que le gouvernement et le président chinois ne pourront pas rester sans réagir devant le grondement, et il y aura sans doute des mises à l'écart ou des limogeages, et une reprise en main autoritaire du régime me paraît inévitable.
Si la Chine s'enfonce dans cette crise économique, qui va souffrir dans le monde ?
Tout le monde. Il y a à la fois les bons et les mauvais côtés. Les bons côtés, pour commencer par eux, c'est que si la Chine croît moins, donc la Chine a moins besoin de matières premières, donc les prix des matières premières vont baisser, sont déjà beaucoup baissés, et nous avons, nous, une facture pétrolière moins élevée, donc notre pouvoir d'achat, ironiquement, augmente en fonction de la récession chinoise. Mais en même temps, pour ceux d'entre nous en Occident qui exportons beaucoup en Chine, c'est le cas surtout de l'Allemagne, et pour nous, des industries du luxe, nous souffrirons de notre absence de relais. Le fait que la France exporte moins que l'Allemagne fait que nous souffrirons moins. Mais malgré tout, l'économie mondiale ne peut pas survivre avec un seul... C'est comme un avion qui n'aurait plus qu'un moteur. Normalement, l'avion monde a quatre moteurs, qui sont les États-Unis, l'Europe, la Chine et le Japon. Sur ces quatre moteurs, maintenant, il y en a trois d'éteints. Il reste qu'un moteur, et on sait bien qu'un long courrier avec un seul moteur, ça peut pas voler très longtemps.
De la City à Londres, première place financière mondiale, les traders peuvent entendre ceci. C'est Big Ben, l'horloge du Parlement britannique. Son énorme cloche sonne l'heure pile. Enfin presque. Les trois horlogers à temps plein n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça sonnait cette semaine avec 6 secondes d'avance. Alors ils tentent de régler au mieux le mécanisme vieux de 156 ans. Vous voulez peut-être savoir avec quoi le réglage ? Des pièces de monnaie. Oui, de grands plateaux remplis de pièces. Vous enlevez ou rajoutez quelques vieux pennies pour trouver l'équilibre parfait du mécanisme de l'horloge.
Une semaine d'actualité.
Quittons Londres pour cet autre bruit, 974 km plus à l'est, à Heidenau, en Allemagne. Des huées rares pour Angela Merkel, la chancelière allemande, venue dire sa colère après les violences xénophobes commises près d'un foyer de réfugiés, se fera même traiter de traître par des extrémistes allemands.
Un accueil dans la dignité des réfugiés fait partie de nos principes. Ce qui s'est passé ici est honteux et abject. Aucune tolérance n'est possible pour ceux qui remettent ces principes en cause.
Angela Merkel avec le correspondant des RFI, Pascal Thibault. Elle voit en ces migrants 70 morts entassés, asphyxiés dans un camion de passeurs en Autriche. Un avertissement dramatique. Dans la crise des migrants, au cœur des discussions d'ailleurs des dirigeants des pays des Balkans de l'Ouest. À Belgrade, Laurent Houy voit ses réfugiés traversant la Serbie.
C'est exténué que les migrants de Syrie et d'autres pays en crise entrent en Serbie. Jusque très récemment, le pays tentait d'endiguer la migration, mais une fois entrés, les migrants étaient bien traités. À tel point que le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies avait félicité la Serbie la semaine dernière. Mohamed, un jeune Syrien, explique comment la police l'a aidé à traverser la Serbie.
Ils nous ont emmenés au commissariat et nous ont donné un papier. Il y avait des tables et nous avons fait la queue. Ensuite, ils nous ont mis dans des bus et nous sommes arrivés ici.
L'intérêt de la Serbie est que les migrants traversent le pays au plus vite avant que le mur que la Hongrie construit à sa frontière ne soit achevé. En attendant, les ministres rivalisent de bonnes intentions. Le dernier à l'avoir fait est Aleksandar Vulin, qui s'occupe des affaires sociales.
Les migrants ne restent pas trop longtemps en Serbie, mais tant qu'ils sont là, la loi nationale et les textes internationaux les protègent. Ils sont aussi protégés par le peuple serbe. Nous savons à quel point la souffrance des autres peut être pénible et nous nous comportons en conséquence.
Les autorités serbes ont aussi installé deux camps de transit au confort spartiate au nord et au sud du pays et des antennes médicales prennent soin des malades. Ces conditions sont minimales, mais elles allègent beaucoup les difficultés du voyage des réfugiés.
François Hollande, au nom de la France, veut voir l'Union européenne réagir collectivement pour accueillir les réfugiés, mais pas les autres.
Nous voulons d'abord accélérer la mise en place des centres d'accueil en Italie et en Grèce. qui ont comme obligation d'ailleurs, de faire la distinction entre les demandeurs d'asile, qui doivent être enregistrés, et les migrants qui viennent pour d'autres objectifs, mais qui ne peuvent pas être acceptés en l'état. Deuxième proposition, nous devons veiller à une répartition équitable des réfugiés. Et il y a des pays qui se refusent aujourd'hui à en accueillir. En Europe, nous devons également raccompagner dans la dignité les personnes qui sont entrées de façon illégale. C'est la condition pour l'effectivité de nos règles, y compris pour protéger les réfugiés et les demandeurs d'asile.
Jacques Attali, il manque une autorité commune à l'Union européenne capable de répartir les réfugiés.
Il manque beaucoup de choses, mais vous avez raison, c'est un point central. Je crois que cette question des réfugiés ou des migrants ou des visiteurs ou des travailleurs expatriés, parce qu'on les appelle différemment selon leur statut social, va être une question centrale des années qui viennent. J'ai moi-même depuis de longues années dit que nous entrions dans une période de dégel de l'humanité. Il y a aujourd'hui 200 millions de personnes qui vivent dans un autre continent que celui où ils sont nés. On va passer de 100 à 1 milliard dans les 20 ans qui viennent. Donc c'est un grand mouvement qui peut s'accompagner de la construction de murs, comme on le voit ici ou là. Donc l'Europe doit absolument, évidemment, définir une politique commune, pas seulement de répartition des réfugiés, mais plus généralement d'une protection claire de ses frontières à l'égard de tous les dangers, et aussi d'une politique d'intégration, parce que recevoir sans intégrer, ça n'a pas de sens, il faut intégrer. Sinon, on aura de plus en plus de mal à vouloir recevoir, puisqu'on ne saura pas intégrer, ceux qu'on n'aura pas intégrés seront de plus en plus fâchés de ne pas l'être. Donc, il faut une politique globale. Ça passe déjà par Frontex, qui est un outil européen qui a le mérite d'exister, et dont il faut vraiment beaucoup, beaucoup augmenter les moyens, qui serait d'ailleurs...
C'est un peu la ligne Maginot, hein.
C'est une frontière, et c'est la frontière extérieure. C'est pas une ligne Maginot, je crois que la frontière est absolument nécessaire. On ne peut pas accueillir qui que ce soit. François Hollande a très justement dit qu'il faut faire la distinction entre les réfugiés politiques qu'on ne peut pas refuser et les autres dont on peut se poser la question de savoir s'ils sont tous recevables au gré et en fonction de notre capacité d'intégration. L'Europe a besoin d'immigration puisque la population de l'Europe est faible et insuffisante. Et il faut créer les conditions de l'intégration. Parce que si on ne fait que entasser des réfugiés et ou des immigrants dans des centres épouvantables où va se développer inévitablement la violence, plus personne n'en voudra. Et donc l'intégration est la clé de l'évolution. Donc je dirais Frontex et une autre institution qu'on pourrait appeler Intégrex, qui serait l'intégration de ceux qui viendraient de l'extérieur.
Il y a maintenant un peu plus d'OTAN en Géorgie et un peu plus de Géorgie dans l'OTAN. Avec ces mots, bien à lui, Jens Stoltenberg inaugure ainsi le centre d'entraînement de son alliance atlantique, à Ksansnissi, près de Tbilissi. Oui, nous sommes bien dans l'ex-république soviétique du Caucase. Inutile de vous dire la joie exprimée aussitôt par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe devant Muriel Pomponne, notre correspondante à Moscou.
Nous considérons que cette initiative est une nouvelle provocation de l'Alliance visant à élargir son influence géopolitique. L'installation de ce site militaire de l'OTAN en Géorgie sera un facteur déstabilisant pour la sécurité de toute la région.
Les Russes, eux, occupent plus que jamais en Géorgie l'Ossétie du Sud, conquise par les armes il y a 7 ans. Et puis, ce petit calcul Depuis l'annexion de la Crimée par les Russes, depuis seulement un an et demi donc, 66 fois, les soldats de la Russie ont fait face de façon très rapprochée à ceux de l'OTAN ou de la Suède et Finlande. 66 risques de dérapage militaire, note un groupe d'anciens ministres des Affaires étrangères ou de la Défense, les comptant un à un. Parmi eux, le français Paul Quilès.
Il y a de nombreux exercices militaires qui sont réalisés de part et d'autre. Ça fait beaucoup de troupes qui se déplacent, beaucoup d'avions qui bougent dans tous sens. Et nous considérons que c'est dangereux, qu'il peut y avoir un enchaînement à partir d'une erreur, à partir d'une excitation des états-majors. Des guerres se déclenchent de cette façon-là. Et il faut que, même si ces exercices doivent avoir lieu, il faut aussi qu'au niveau militaire, des règles soient posées, des règles d'utilisation de l'espace aérien, de l'espace maritime. Par exemple, prévenir des exercices militaires qui sont réalisés, définir les zones dans lesquelles il ne faut pas se déplacer pour ne pas provoquer l'autre, et faire en sorte que lors des exercices, il n'y ait pas de simulation d'attaque en orientant les canons, les missiles, en direction des avions et des navires d'un prétendu adversaire.
Paul Quilès avec Svetlana Balabanova. 14 anciens ministres de tout pays, dont le russe Igor Ivanov, réclament des règles communes pour éviter tout dérapage entre troupes à l'entraînement. Jacques Attali, jusqu'où le point de tension peut-il monter avec la Russie ?
C'est un reportage très important et très intéressant. Je crois beaucoup que nous sommes aujourd'hui au bord de ce qui peut être l'étincelle qui mettra le feu aux poudres et déclencherait une troisième guerre mondiale absurde comme l'a été la première. La deuxième ne l'était pas, puisque la deuxième, c'était une guerre contre le diable. La première était une guerre absurde où des dynasties se sont entretuées par le biais des peuples. Ici, c'est pareil. On n'a aucune raison de faire la guerre à la Russie. La Russie n'a aucune raison de nous faire la guerre. Et les Américains, qui cherchent à tout prix à avoir un ennemi, parce qu'ils ont besoin d'un ennemi pour justifier leur complexe militaro-industriel et pour justifier leur puissance, qui n'ont pas trouvé cet ennemi dans la Chine, puisque la Chine n'est pas une nation impérialiste, et aussi, on vient de le voir chaque jour davantage, n'a pas les moyens d'être une superpuissance. Donc les États-Unis se retournent vers la Russie et créent les conditions de cet affrontement. Et l'OTAN, qui n'a plus de raison d'être, puisqu'on a supprimé le pacte de Varsovie, pourquoi diable l'OTAN existe-t-il encore alors que son contrepoids a disparu? L'OTAN crée les conditions de risquer. Je partage les inquiétudes qui ont été données. Il peut y avoir à chaque seconde un incident provoqué par les militaires d'un camp ou d'un autre. Les Russes, dans leur histoire, depuis le XIIe siècle, ne supportent pas d'être encerclés. Dès qu'ils sont encerclés, ils réagissent. Toutes les guerres déclenchées par les Russes sont des guerres pour lutter contre l'encerclement. Ce ne sont pas des guerres de conquête, ce sont des guerres de lutte contre l'étouffement. Et là, en mettant un pion de plus en Géorgie, de façon tout à fait absurde et purement provocatrice, on ne fait que créer les conditions pour s'approcher d'une guerre où, naturellement, les Américains ne la feront que par Européens interposés. C'est nous qui mourrons pour la gloire de leur système militaro-industriel. Les Russes, qui l'ont compris, ont d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises que cette fois-ci, ils ne feront pas la guerre seulement en Europe, mais ils iront sur le territoire américain, c'est-à-dire que le cataclysme est possible.
Aux États-Unis, un ancien président, Jimmy Carter, se sait en fin de parcours, si j'ose l'expression. Son cancer se propage au cerveau. Son vœu le plus cher, la paix partout, notamment pour Israël et ses voisins. Il se dit d'ailleurs découragé devant le peu de progrès du processus. Mais Jimmy Carter va souvent à l'église pour y livrer son catéchisme, les rapports entre les hommes.
Je dirais que simplement pouvoir reconnaître que vous avez pu avoir tort et que l'autre personne a pu avoir raison est un aspect important du christianisme aussi bien que de l'amour.
Jacques Attali, vous aimez ce principe de vie de Jimmy Carter ?
Vous avez très justement repris cette phrase de Jimmy Carter, qui a été un grand président, battu pour de mauvaises raisons, et qui ensuite a été un grand après-président, puisqu'il a fait ce que presque aucun président n'a réussi à faire, et en particulier en France, c'est-à-dire avoir une vie après la présidence, une vie magnifique, où il a été utile à l'humanité, peut-être plus encore que comme président. Et cette phrase a été toujours un guide pour moi. Reconnaître que l'autre peut avoir raison, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi-même je n'ai pas fait de politique politicienne, puisque le propre d'un politicien, c'est de ne jamais reconnaître que son opposant peut avoir raison et de ne jamais changer d'avis.
Dans un instant, suite de cette semaine d'actualité avec les commentaires et analyses de Jacques Attali, juste après les toutes dernières infos sur RFI. Poursuivons notre regard sur l'actualité de la semaine avec notre invité, l'économiste Jacques Attali.
Daniel Grillon.
Prenons le chemin de la COP21. En décembre, à Paris, sommet mondial contre le réchauffement climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est venu dire en France son souhait d'un accord solide.
Premièrement, il ne doit laisser aucun doute que l'engagement en faveur de faibles émissions de carbone est pris de façon irréversible. Deuxièmement, il doit s'inscrire dans le long terme.
Jacques Attali, vous croyez à un accord mondial à Paris sur le réchauffement climatique avec toutes les contraintes économiques de tous les pays ?
Vous avez raison, la conférence climatique, tout le monde peut souhaiter un accord. Mais il peut y avoir deux types d'accords. Il peut y avoir un accord qui dise, en 2050, on aura réduit de 50% les émissions de gaz à effet de serre, et tout le monde s'en félicitera, mais il y aura peu de ministres qui seront encore en poste en 2050, et donc cet accord ne sera pas valide. La seule chose qui compte, c'est d'avoir, en plus d'un accord sur 2050, qui à mon avis est accessible, un accord sur 2025, et qui montre comment, d'ici à 2025, on aura vraiment fait les choses, un accord crédible qui donne des moyens. Et pour ma part, je suis plus convaincu que jamais que la réponse est dans la technologie, que la technologie permet de faire d'énormes économies d'énergie, d'ailleurs qui montrent que l'utilisation des gaz de schiste n'est pas nécessaire, et que, on le voit d'ailleurs avec la baisse du prix du pétrole, on peut vivre tout naturellement, sans privation, avec beaucoup moins de consommation énergétique, en particulier d'énergie fossile. Et pour cela, le progrès technique est la clé, et il faut à tout prix le développer, en particulier dans les pays du Sud, et en sachant qu'une des bonnes façons de devenir économe et d'améliorer le climat, c'est d'être progressivement moins consommateur de viande. Et évidemment, si tout le monde était végétarien, la planète n'aurait plus à souffrir de nos effets indirects liés à l'élevage, qui sont aussi considérables que ceux liés à l'industrie.
Une semaine d'actualité.
Plus de 5 millions de chômeurs en France. Le gouvernement note plutôt les 1900 en moins signalés cette semaine dans la catégorie dite ces Français sans aucune activité. L'opposition voit plutôt la légère hausse d'ensemble. Il y a un peu plus de Français travaillant seulement par intérim. Cette semaine, c'est la rentrée des patrons. Fini les vacances au MEDEF. Leur président Pierre Gattaz demande au gouvernement, sur Europe 1, de desserrer le code du travail.
Il faut libérer l'emploi, il faut libérer le marché du travail, il faut faire confiance aux entreprises, il faut avoir le courage de réformer. Vous savez, les entrepreneurs que je vois ont peur d'embaucher. Je rencontre des tas de petits artisans toutes les semaines qui me disent « j'avais 2 salariés, j'ai eu 2 prud'hommes, eh bien j'embaucherai jamais plus de ma vie ».
Et qu'est-ce qu'ils font pour les embaucher ?
Il faut arrêter de faire que nos salariés partent au prud'homme dès qu'il y a un problème. Et je demande un CDI sécurisé, c'est-à-dire en fait, ça peut être un CDI qui permet d'intégrer des causes réelles et sérieuses dans le CDI. C'est-à-dire que lorsque nous signons avec notre salarié, eh bien que nous connaissions par avance les conditions de séparation.
Le CDI, ce contrat à durée indéterminée, liant une entreprise et un salarié de façon solide, trop pour le MEDEF. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, est venu leur parler au patron, leur rappelant les allègements de charges du pacte de responsabilité en échange de promesses d'embauche.
Je sais que vous avez fait beaucoup dans le cadre du pacte de responsabilité, mais on doit, on peut encore aller plus loin. Votre responsabilité, c'est justement de le décliner en plus et mieux d'emplois. Mesdames et messieurs, mon message est simple. Ne vous demandez plus ce que votre pays peut faire pour vous. Il a fait maintenant beaucoup. Et je m'y engage, nous continuerons à faire. Mais demandez-vous à chaque instant ce que vous, vous pouvez faire pour notre économie, avec nous. Parce que vous pouvez beaucoup.
Et puis cette petite phrase très remarqué d'Emmanuel Macron devant le MEDEF et créant aussitôt l'émotion au Parti Socialiste. La gauche n'est pas exempte de critique, je cite, elle a fait croire qu'en travaillant moins, la France pourrait aller mieux. Le ministre fait référence là aux fameuses 35 heures, cette durée de travail hebdomadaire légale. Jacques Attali, Il faut mettre fin aux 35 heures en France, oui ou non? C'est un débat qui dure, ça n'arrête pas.
Non, c'est un serpent de mer. Je pense que c'est maintenant ancré dans la réalité, les 35 heures. D'ailleurs, beaucoup de gens travaillent moins que 35 heures, d'autres travaillent plus. Et c'est plutôt une barrière qui détermine un niveau de salaire, puisque si vous travaillez plus, ben vous êtes payé plus. Et beaucoup de gens, si on leur disait qu'on mettait fin aux 35 heures, ça ne reviendrait pas à augmenter leur durée du travail, ça reviendrait à réduire leur salaire, puisque ça ne serait plus compté comme des heures supplémentaires. Donc c'est devenu une querelle vide de sens. En réalité, aujourd'hui, il est clair que l'automatisation va créer des conditions pour une réduction massive de la durée du travail dans certains métiers. Il est clair aussi que la durée du travail perd son sens avec les nouvelles technologies. Ceux d'entre nous, et ils sont les plus nombreux maintenant, qui utilisent des téléphones, des ordinateurs pour leur travail, savent bien qu'il y a ce qu'on appelle la zone grise, où on travaille même quand on n'est pas à son bureau, d'ailleurs on a de moins en moins de bureaux, et qu'on travaille dans le train, on travaille dans le métro, on travaille chez soi, et que cette question de durée du travail n'est plus applicable qu'à une fraction de moins en moins élevée de la population, pour qui le travail est pénible, et ceux pour qui le travail est pénible, évidemment, la réduction de la durée du travail reste une obligation morale.
Les dirigeants...
Distinguer les différentes situations, les différents cas. La frontière des 35 heures, c'est d'abord une frontière qui indique un niveau de salaire et un niveau d'intérêt dans le travail.
Les dirigeants au plus haut niveau vous consultent régulièrement parce que vous êtes...
Ça ne veut pas dire qu'ils m'écoutent, cher ami.
C'est ce qu'on croit comprendre aussi, bien sûr. Ils vous écoutent peu ?
Mais écoutez, moins que je le souhaiterais, bien sûr, mais je respecte cela. Ce sont eux qui ont la charge des choses. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vais maintenant m'atteler à autre chose, c'est-à-dire de faire un programme présidentiel complet que je vais mettre sur la table en janvier avec un très grand groupe. Ça sera un programme présidentiel pour les élections de 2017. Et je regarderai quels sont les candidats qui s'en approchent le plus. Et s'il n'y en a pas, ben, je trouverai un candidat où je ferai en sorte qu'existe un candidat qui serve ce programme.
Vous espérez que François Hollande, qui vous écoute régulièrement, suivra ce programme ?
Je verrai bien. François Hollande est pour moi le meilleur président de la République depuis François Mitterrand. Je continue à le penser et je serai très heureux que il poursuive sa trace et améliore encore son bilan de façon à pouvoir être candidat et réélu. Mais je fais ce programme de façon tout à fait indépendante de qui que ce soit et je soutiendrai celui ou celle qui en sera le plus proche ou je créerai les conditions pour qu'il en existe un.
Vous dites dans une chronique publiée dans le journal L'Express, la classe politique française fait sa rentrée sur un mode nul, indigne du pays et éloigné des enjeux. À ce point,
oui,
nul.
On le constate. Nul, peut-être le mot est excessif, mais en tout cas...
Vous qui l'écrivez.
Oui, mais vous avez suffi. Parfois, il faut crier fort pour être entendu. Donc là, j'ai crié fort et je suis entendu. Mais c'est frappant de voir qu'on n'a que des petites querelles de savoir qui est dans quel parti, qui le quitte, qui va être candidat, qui va pas l'être, qui rejoint tel camp ou tel autre, et que les grands enjeux du moment, qui sont ceux que vous avez très, si je peux me permettre, sans flatterie excessive, remarquablement identifiés, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de la migration, qu'il s'agisse des enjeux de la crise chinoise, qu'il s'agisse de l'emploi, de la formation, tous ces grands enjeux, je les vois pas traités. Peut-être, même si ce n'est pas mon camp, je les vois un peu mieux traités pour l'instant à droite qu'à gauche, puisqu'il y a à la fois une esquisse de programme de M. Fillon qui est en train d'apparaître, un livre sur l'école très intéressant de M. Juppé. J'attends de voir si la gauche va enfin se mettre elle aussi à parler programme et si la droite va aller plus loin que ses premiers balbutiements d'idées sur les sujets majeurs de notre pays. Parce que c'est seulement un président de la République dans les 100 jours qui suivent son élection qui peut faire des choses majeures. Et si le pays ne s'y prépare pas dès maintenant, 2017 sera aussi raté que 2007, 2012 et 2002.
Au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
Je dis tout de suite à nos auditeurs que François Hollande, que vous venez d'entendre, ne vous décore pas fou, Jacques Attali, de la Légion d'honneur. Il décore deux soldats américains pour avoir stoppé le terroriste armé de sa Kalachnikov dans un train Amsterdam-Paris. Un Anglais également décoré.
Je ne suis pas sûr que ça soit héroïsme. Je crois que c'était ce qu'il fallait faire dans une situation de survie. En même temps, j'espère que ça ne vous arrive pas, mais je vous invite à vraiment penser qu'est-ce que je vais faire si ça m'arrive. Est-ce que je vais tout simplement rester figé ou est-ce que je vais essayer d'être actif si l'occasion se présente.
Chris Norman, 62 ans, avec Raphaël Rennes. Un Français le sera décoré. Mais en secret, il ne veut pas se dévoiler. Le premier, il s'est jeté sur Ayoub El-Khazani, dont l'avocate doit trouver ses mots pour expliquer devant la presse ses premières déclarations.
Il est médusé du caractère terroriste qui est attribué à son action. Il dit que providentiellement, il a trouvé une valise avec une arme, donc lui ne parle que de la Kalachnikov, avec un téléphone dans cette valise, caché dans le jardin public qui se trouve juste à côté de la gare du Midi à Bruxelles. Donc il a pris les armes, il est monté dans ce train pour effectivement rançonner les passagers. Et il pensait ensuite, en tout cas c'est ce qu'il déclare, sauter par la vitre du train pour s'échapper.
Maître Sophie David avec Christine Cibert, peu après l'arrestation du terroriste. Après quelques jours de garde à vue, le procureur de Paris donnait sa conclusion. François Molin au micro de Guilhem Deltey.
Au terme de déclarations que je qualifierais de fantaisistes, il y a donc lieu aujourd'hui d'ouvrir une information judiciaire des chefs de tentative d'assassinat, le tout au pluriel, en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste. Cette tentative d'assassinat concerne l'ensemble des personnes se trouvant à sa portée dans le train Thalys Amsterdam-Paris.
Jacques Attali, l'homme, un Marocain de 25 ans, faisait l'objet d'une fiche de renseignement spéciale, comme des centaines, voire des milliers d'autres, dans les services de police. Son bras armé a été stoppé à la dernière seconde, par le courage donc des passagers. Doit-on fouiller les passagers des trains comme ceux des avions ?
Oui, je trouve que c'est tout à fait imprudent, pour ne pas dire plus, de la part du directeur général de la SNCF que d'avoir dit que c'était impossible. Si c'est impossible, c'est une incitation aux terroristes de le faire, donc c'est pas vraiment malin d'avoir dit. Il faut le faire, évidemment. Au début, on disait que c'était impossible dans les avions, on l'a fait. On le fait aujourd'hui dans les trains internationaux, comme l'Eurostar. Pourquoi est-ce qu'on fait pour l'Eurostar? On ne pourrait pas le faire pour tous les trains, je ne le vois pas.
Pardonnez-moi une petite parenthèse. La SNCF fait remarquer que si elle fait fouiller les bagages des passagers montant dans les trains, ça annule notamment, par exemple, l'avantage du temps pour les TGV, c'est-à-dire que ça multiplie par deux le trajet, et résultat, vous n'avez plus intérêt à prendre le TGV.
Ce n'est pas exact, d'abord, parce que si vous prenez le train, l'Eurostar, vous n'avez pas besoin d'être là une heure avant, et pourtant vous êtes fouillé, vous avez besoin d'être là 10 minutes avant. Et si vous voyez comment on monte dans l'Eurostar, on passe dans un contrôle et on passe une frontière en plus, donc c'est plus encore qu'un train intérieur. On passe une frontière et un contrôle et ça prend 2 minutes et demie, donc ça ne supprime pas l'avantage du tout. Simplement, ça fait des investissements, mais vous verrez bien qu'on le fera parce que la sécurité passe avant tout et ce qu'on vient de dire impossible se fera partout en France, dans toutes les gares.
Comme en Espagne. Parlons loi, la lutte antiterroriste et les libertés individuelles. Jacques Attali, doit-on, pour lutter contre ce terrorisme, accepter d'en perdre au nom de la sécurité de chacun ?
C'est une grande question et la réponse est oui. De tout temps, la bataille a été entre la sécurité et la liberté. Et de tout temps, les hommes ont voulu plus de liberté, plus de sécurité. Quand il s'agissait de choisir, ils ont toujours choisi la sécurité contre la liberté. Et aujourd'hui, la sécurité, qui est de toute nature, va nous amener, ça fait très très longtemps que je le prévois, que je le décris, vers une société de surveillance, d'hypersurveillance à distance, puis d'autosurveillance, où chacun d'entre nous va se surveiller, va surveiller les autres. Et ça, c'est une évolution inévitable, qui est d'ailleurs aussi une évolution qui peut conduire à plus de liberté, parce que se surveiller, c'est se maîtriser. Il y a dans la maîtrise de soi, dans la surveillance de soi, un élément qui conduit à davantage de liberté. Évidemment, la grande question sera la compatibilité de tout ça avec la démocratie, mais ce n'est pas du tout impossible si on veut bien maintenir les procédures nécessaires pour éviter que Big Brother s'en empare. La sécurité n'est pas incompatible avec la démocratie. La sécurité passe avant tout et elle n'est pas incompatible avec les libertés publiques.
Vous conseillez François Hollande, Nicolas Sarkozy vous écoutez. Vous avez occupé le très confidentiel bureau à l'Élysée du conseiller spécial du président, donc auprès de François Mitterrand. Il décorait parfois aussi des personnes courageuses, mais en secret, pour protéger leur identité, comme ce Français dans le train, dont personne ne connaît l'identité.
Oui, il l'a fait. Et je voudrais revenir sur ces gens. Je crois que c'est très important d'abord de faire un parallèle avec... Je n'ai pas entendu ce parallèle fait, mais le quatrième avion du 11 septembre 2001 a eu des passagers tout aussi courageux que les quelques Américains, anglais et français
une
qui ont été
sportive,
courageux cette fois-ci.
Oui.
Et qui ont réagi et, d'après ce qu'on croit comprendre, ont empêché l'avion de se diriger vers la Maison Blanche, qui était leur objectif. Et en fait, l'avion s'est effondré, mais sans causer de mort autre que tous les passagers de l'avion et les terroristes. C'est un parallèle. Je crois que il y a, en matière d'éducation, et sans doute va-t-on venir à l'éducation ici, aussi une éducation civique. nous devons être des acteurs. Quand Emmanuel Macron rappelait très justement la phrase de Kennedy sur « Faites pour ton pays ce que tu penses que tu peux faire et n'attends pas tout de lui », c'est aussi vrai en matière de sécurité. Et l'apprentissage du courage, c'est une chose essentielle. Le fait de ne pas mourir résigné face à un terroriste qui vient vous tirer dessus est quelque chose à quel personne n'est préparé, sauf quelques courageux qui d'ailleurs ne savent même pas qu'ils sont courageux jusqu'au moment où ils sont confrontés à cela. Et je pense que la vigilance, le courage, la mobilisation, ce sont des choses qui font partie de la dignité humaine et qui devraient être renseignées comme une des dimensions de la condition humaine.
Une semaine d'actualité.
En Afrique, le terrorisme de Boko Haram, la branche régionale du groupe État islamique, l'envoyé spécial de la rédaction anglaise des RFI, Ben Chemang, était avec le tout nouveau chef d'état-major de l'armée du Nigeria pour sa visite sur le terrain près de Maïdigourou dans le nord. Boko Haram était en embuscade, récit de Bintadiane.
Faljari est comme un village fantôme. Les écoles sont détruites, les maisons sont en ruine, il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Les habitants ont fui ce chaos et les violences de Boko Haram. Mais certains insurgés rôdent encore dans les alentours. Cachés dans les débris d'un bâtiment, ils tendent une embuscade à une colonne de militaires venus sécuriser les lieux, comme l'explique Ben Chemang, notre correspondant.
Les militaires ont été surpris par des tirs. Des hommes de Boko Haram les ont attaqués avec des kalachnikovs et des pistolets. Ces hommes étaient cachés dans des bâtiments en ruine, mais une seconde colonne de militaires a encerclé les lieux. Les échanges de tirs étaient nourris, ça tirait dans tous les sens.
Les échanges de tirs durent une quarantaine de minutes. Les militaires parviennent à prendre le dessus. 10 insurgés sont arrêtés, 5 autres sont blessés. Face à des centaines de militaires épuisés, le nouveau chef d'état-major de l'armée, le général Tukur Barataï, promet d'améliorer les conditions de travail de ses troupes.
Les routes doivent être nettoyées. La prochaine étape n'est pas loin, c'est Mafa. Vous devez vous assurer que les voies sont sécurisées. Je sais que vous faites du bon travail. J'ai aussi été informé de vos demandes concernant vos besoins logistiques. Nous allons étudier toutes ces requêtes. Et je vous promets que les choses vont s'arranger, surtout pour ce qui concerne vos rations alimentaires et vos équipements.
Depuis quelques semaines, les militaires ratissent les villages proches des frontières avec le Niger et le Cameroun, des zones par ailleurs polluées par la présence de mines.
La France se dit prête à réunir les pays impliqués dans la lutte contre Boko Haram pour échanger toutes les informations avec le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Partons en Côte d'Ivoire. Et son élection présidentielle le 25 octobre. 33 candidats, dont 3 femmes, enregistrés par la commission électorale, dont le président sortant Alassane Ouattara, le grand favori. Cette commission doit maintenant valider chaque candidature, ou pas. Ousmane Camara, par exemple, craint de ne pas l'être validé. Il est chef d'entreprise. À 36 ans, il est trop jeune de 4 ans. Les candidats doivent avoir de 40 à 75 ans. Ils s'expriment devant Boniface Vignon.
On a une constitution aujourd'hui qui n'est pas exploitable. L'article 35 de cette constitution pose problème depuis toujours. Il faut être né ivoirien qui entend qu'à la naissance on est pour première nationalité à nationalité ivoirienne, condition à laquelle répond aucun des candidats principaux, notamment M. Ouattara qui est né autour des années 40, M. Issi Amara qui est de la même classe d'âge, M. Banning qui est de la même classe d'âge. Ils sont tous nés en colonie et ils jouissaient de la situation de citoyens des colonies françaises. Donc ils n'avaient pas la nationalité ivoirienne à la naissance qui n'existe que depuis 1960. Et en parlant de droits, ils ne sont pas éligibles selon l'article 35. Et c'est le même article 35 dans un autre alinéa qui, moi, à 36 ans, m'empêche d'être candidat aux élections présidentielles de mon pays, alors que depuis 15 ans, je travaille. J'ai embauché plus de 300 personnes en Côte d'Ivoire. Mes affaires se portent bien. Et pourquoi je ne pourrais pas gérer mon pays? Aujourd'hui, nous avons un ministre du budget qui a autour de 33 ans, qui est moins âgé que moi et qui prend des décisions qui engagent l'État de Côte d'Ivoire.
Jacques Attali, avoir au moins 40 ans pour avoir le droit d'être candidat à la présidence en Côte d'Ivoire. Je suppose que ça vous laisse perplexe, vous qui avez occupé des fonctions de conseiller spécial très jeune auprès de la présidence
de la République. Oui, avant 40 ans. Mais je pense qu'on peut évidemment être président de la République avant 40 ans.
Est-ce que c'est préférable, d'ailleurs? Est-ce que c'est mieux?
Vous savez, le talent n'attend pas le nombre des années, mais le talent ne disparaît pas avec l'âge. Donc ça dépend des personnalités. Il peut y avoir des personnalités exceptionnelles à moins de 40 ans, puis il peut y avoir des gens de 80 ans qui peuvent faire d'excellents présidents, même en arrivant au pouvoir à cet âge-là. Et on peut avoir d'exécrables présidents très jeunes, comme on en a eu beaucoup en Afrique, et comme il y en a encore, exécrables. Et d'excellents très âgés. Donc l'âge n'est pas une question. Je trouve que 35 ans, évidemment, il faut une limite d'âge, il faut une limite minimale. Maximale, je crois qu'elle est idiote, mais minimale, ça me paraît raisonnable. 40 ans, ça me paraît vraiment excessif. La plupart des pays mettent cette limite autour de 25-30 ans.
La presse en Côte d'Ivoire donne un nom à ces candidats faisant parler d'eux ainsi et n'ayant aucune chance de voir leur candidature retenue par la Commission pour des causes de constitution. Ils s'appellent les Boucantiers. Retour en France. Vous parliez de la rentrée des politiques, Jacques Attali, mais aussi de la rentrée scolaire. Alors celle des enfants maintenant. Alice Posicky nous détaille cette rentrée scolaire française présentée par la ministre en charge.
Lutter contre l'échec scolaire, c'est une priorité, estime Najat Vallaud-Belkacem. Et selon la ministre de l'Éducation nationale, les efforts de cette rentrée 2015 passent avant tout par plus de moyens humains.
Je rappelle ici que c'est depuis 2012 près de 9000 postes qui ont été créés en maternelle et en primaire. 2500 nouveaux postes rien que pour cette rentrée 2015. Ce qui permet d'avoir une classe pour 22 élèves, loin d'un certain nombre de chiffres qui ont pu circuler ici ou là.
Plus de professeurs, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi revoir les fondamentaux, relève Najat Vallaud-Belkacem. Nouveau programme en maternelle, meilleur accueil des enfants de moins de 3 ans. L'école primaire a trop longtemps été laissée de côté, regrette la ministre.
Il n'y a pas toujours eu ce consensus autour de la nécessité de donner la priorité aux primaires. Quand on supprimait classe sur classe, quand on a anéanti la préscolarisation des enfants de moins de 3 ans, quand on a fait la semaine des 4 jours, réduisant donc le temps d'enseignement pour les élèves à l'école primaire, ce n'était pas de la priorité aux primaires. Donc voilà, il faut savoir être cohérent.
La ministre l'affirme, elle veut une école exigeante, mais aussi innovante. Un grand plan numérique sera déployé dès la rentrée dans 600 établissements pilotes.
Jacques Attali, on s'est écharpé récemment en France, de longs mois, sur la réforme du collège, alors que tout se joue en fait dans le primaire, voire même la maternelle. Mais
tout se joue dans la maternelle.
Pourquoi est-on si éloigné de la réalité alors ?
D'abord, la réforme qui a été faite, moi je la trouve excellente. Il faut bien distinguer deux dimensions dans cette réforme. Il y a la réforme des programmes qui est en cours et sur laquelle on a fait un procès d'intention maladroit parce que rien n'est réglé. Et la réforme qui est l'essentiel, qui est de donner davantage de pouvoir et d'autonomie aux directeurs des collèges pour fixer des programmes un peu plus adaptés à chaque situation. Donc ça, c'est une excellente réforme. Mais c'est pas, en effet, vous l'avez dit, prioritaire. La priorité, c'est la maternelle. Et en maternelle, on sait que l'encadrement doit dépendre du nombre d'enfants et de la capacité des enfants à avoir acquis dans la famille les fondamentaux. Or, si un enfant n'a pas acquis les fondamentaux dans sa famille, il n'ira nulle part plus tard si la maternelle ne le rattrape pas. Et pour rattraper, on sait maintenant que l'encadrement doit être de 1 pour 3. Vous entendez 1 pour 3, c'est-à-dire qu'il faut un enseignant pour 3 élèves. On est aujourd'hui en maternelle à 1 pour 6, 1 pour 7. Alors, il faut donc doubler le nombre d'encadrants dans les maternelles, et en particulier dans les maternelles où on a des enfants qui, pour des raisons d'origine familiale, ne parlent pas, ne maîtrisent pas plus de 200 à 250 mots, alors qu'ils devraient en maîtriser un peu plus de 1500 à cet âge. Voilà l'enjeu. Si on ne le fait pas avant la fin de la maternelle, c'est perdu, et c'est perdu à vie, et ça crée tous les problèmes qu'on connaît.
Manifestement, la société française dans son ensemble n'est pas prête à cela. C'est un investissement massif, financièrement parlant.
C'est pas un investissement si considérable, en fait. C'est un investissement de moins de 10 milliards qui se trouve. Mais évidemment, c'est le choix entre un investissement pour le long terme, parce que ça paye pas tout de suite la maternelle, ça paye 20 ans plus tard, et c'est pour ça qu'on le fait pas. Si on fait pas la maternelle, c'est parce que il y a moins de profs de maternelle que de profs du secondaire, et si on fait plus de réformes dans le secondaire, c'est parce que l'influence des syndicats dans le secondaire, en raison du nombre de profs, donc du nombre de syndiqués, est plus élevée et parce qu'aussi les lycéens peuvent faire grève, ce qui n'est pas le cas des élèves de maternelle. Donc le politique, quel qu'il soit, est plus tenté d'agir là où il a des risques de soucis de toute nature que là où le silence est la règle. Alors que pour autant, et c'est toute la grande question qu'on traite depuis le début de cette émission, ce que moi j'appelle la société positive, c'est une société qui travaille dans l'intérêt des générations suivantes. Ça se joue en maternelle. Et la France est particulièrement mal placée sur ce terrain. C'est un des pays qui s'intéresse le moins à ces maternelles. Étonnamment d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup d'enfants, et nous sommes l'un des rares pays d'Europe qui a un des deux pays d'Europe dont la natalité est supérieure à 2 enfants par femme, mais pour autant nous ne faisons pas les efforts nécessaires ni pour le statut des professeurs de maternelle, ni pour leur rémunération, ni pour leur nombre.
Terminons, si vous le voulez bien, par un petit tour à Madagascar, en ces temples traditionnels d'Ambushi Djatchim. Depuis 5 siècles, ils dominent la plaine. On y trouve les tombeaux des souverains, les cases de bois, les surmontants sont célèbres auprès des touristes.
Quand les gens viennent, ils entrent dans les cases, allumer les bougies, amener tous les offrandes, si vous voulez bien. Et ils prient en Dieu, ils font leurs demandes. Des fois, ils appellent les esprits. Et les esprits viennent se manifester, parler avec tout le monde, comme ça.
Et aujourd'hui,
est fini. C'est fini. Je ne sais pas. Je n'arrive plus à dire, mais mon cœur est gros.
Eh oui, cœur gros, car le feu vient de tout ravager. Ce symbole de la royauté devra être restauré. Merci, Jacques Attali, d'avoir accompagné cette semaine d'actualité. Je signale la sortie, cette semaine, de votre dernier livre. Peut-on prévoir l'avenir, le sien et celui des autres, chez Fayard. Merci, Jacques Attali.
Merci, j'espère qu'une de mes prévisions sera exacte, au moins, c'est que ce n'est pas mon dernier livre et que j'en aurai le temps d'en publier d'autres.
Merci aussi à Vanessa Rovensky, efficace réalisatrice de cette émission. À samedi prochain, chers auditeurs des RFI, vous y retrouverez, c'est sa rentrée scolaire à lui, Pierre-Edouard Deldic, fidèle au poste pour vous.